Gloire à son bon nom. Alléluia. Voilà, eh bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour commencer dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18. Nous lirons au verset 21. Un passage qui nous enseigne une importante vérité. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout !» Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, et je te payerai !» Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. La première leçon que nous tirons de ce passage, c'est laquelle ? Leçon de quoi ? Du pardon, très juste, voilà. Mais il y en a une autre qui est là aussi importante et c'est celle que nous voulons considérer. Vous avez vu qu'il y a partout le mot dette, le mot devoir. Hein. Et nous voudrions parler aujourd'hui plus précisément de la redevabilité. Le fait que nous devions, c'est que nous soyons débiteurs. Hein. Donc ça, c'est aussi une grande réalité. Et là, je lirai simplement cette fois-ci notre texte concernant notre prédication directement. C'est dans Romains chapitre 8 et au verset 12. Et là, il est marqué « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. » Et j'arrête là. Et on peut traduire aussi « Ainsi donc, frères, nous sommes redevables, mais non pas à la chair. » Nous sommes redevables, mais non pas à la chair. Vous remarquez que l'apôtre Paul appelle ses lecteurs « frères ». Vous savez, c'est l'Évangile qui a appris à l'apôtre à dire « frère ». Parce que s'il n'avait pas été chrétien, son orgueil de juif religieux n'aurait jamais condescendu à appeler un romain « frère ». Car un juif religieux méprisait celui qui ne l'était pas, il l'appelait plutôt « chien ». Mais maintenant, dans le cœur de cet hébreu, né d'hébreu, il y a cette sainte reconnaissance de la fraternité chrétienne, sans aucune réserve et sans aucune hypocrisie. On pourrait s'étendre plus longuement sur ce point, qui le mériterait bien là aussi, mais nous voulons parler de cette suite qui est marquée là. Frères, nous sommes redevables. Frères, nous avons une dette. Frères, nous sommes débiteurs. Nous sommes tous devenus, nous sommes tous mis sous diverses obligations. Et je crois qu'il faut considérer ce fait sous deux grands aspects, qui vont être les deux grands chapitres de notre méditation d'aujourd'hui. Comment, tout d'abord, comment devons-nous comprendre cela ? Et ensuite, comment cela doit-il nous influencer ? Déjà, en premier, comment devons-nous comprendre cela ? Frères, nous sommes redevables. Alors ça, nous pouvons et devons le comprendre de bien des façons, car il est vrai que nous sommes débiteurs. Frères et sœurs, nous qui aimons le Seigneur, nous ne sommes pas créditeurs d'un seul, mais nous sommes redevables et débiteurs vis-à-vis de beaucoup. Alors nous sommes redevables au passé déjà, redevables au passé. Et là, il me rappelle, par exemple, l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, celle des héros de la foi, vous savez, ce chapitre des héros de la foi, et nous sommes redevables vis-à-vis de ces bien-aimés qui nous ont montré un exemple, qui nous ont donné un témoignage et qui sont pour nous extrêmement encourageants pour que nous puissions aller de l'avant. Et puis nous sommes redevables, par exemple, aussi à ceux qu'on appelait les pères de l'Église, qui pendant les premiers siècles ont travaillé, je dirais, dans l'ombre, de manière bien souvent méconnue, mais cependant très importante pour la transmission de l'Évangile jusqu'à nous. Et nous sommes redevables à tous ces prédicateurs qui ont dénoncé courageusement l'erreur, au péril de leur vie souvent, la plupart du temps même, et ceci pendant les profondeurs, les périodes sombres du Moyen-Âge. Et nous qui habitons à Châlons ici, nous devrions toujours nous souvenir qu'à moins de 30 km d'ici, il y a un endroit où il y a 182 personnes qui sont mortes pour leur foi en 1210, en 1210. C'est au Mont-Aimé que ça se présente. Et là, on vous dira que c'est des cathares, mais en réalité, lorsqu'on examine de près les documents qui ont été à la base des jugements religieux qu'il y a eu, en fait, il ne s'agit pas de cathares, il s'agit plus précisément d'Henriciens et de Pétrobuciens. Vous me direz, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, Henriciens, ce sont ceux qui écoutaient le message de Henri de Lausanne, qui a été un pré-réformateur, qui annonçait la parole de Dieu, le message de la parole de Dieu, comme nous l'annonçons aujourd'hui. Et les Pétrobuciens, c'était ceux qui suivaient Pierre de Bruys, qui était un autre homme de Dieu, et qui lui aussi annonçait exactement cet évangile que nous prêchons. Voilà. Et ils ont été mis à mort au Mont-Aimé, là, ils ont été brûlés. Plus de 180 d'entre eux, sur fond de croisade contre les Albigeois, mais en fait, c'était pas des Albigeois, mais c'était quand même une réalité. Et puis, tous ces colporteurs, donc, aussi, nous sommes redevables à eux qui répandaient la parole de Dieu au milieu des persécutions, pendant les temps tumultueux de la Réforme. Et là, il me vient de souvenir, je ne sais pas, par exemple, de Guillaume Farel, qui est allé aussi au péril de sa vie pour évangéliser Metz. Si Metz a été pendant des siècles après une ville protestante, eh bien c'est parce qu'il y a eu au départ Guillaume Farel qui a fait un grand travail d'annonce de l'évangile au départ. Il a fait la même chose en Suisse, il a failli être tué à Metz. En Suisse, dans je ne sais plus quelle ville, il s'est fait prendre par une foule de femmes bigotes déchaînées qui l'ont saisi, qui lui ont frappé la tête contre le socle d'une statue de Marie, et son sang a rejailli là sur ce socle de cette statue. Il a réchappé encore miraculeusement de cette situation. Il a continué, il est jusqu'à Montbéliard, et si Montbéliard a été pareil, une région protestante pendant des siècles, c'est à Guillaume Farel qu'on le doit, un homme de courage, un homme de foi, pour pouvoir nous tendre intacte la parole de Dieu. Oui, tous ces martyrs qui ont lutté pour maintenir la vérité, pour la prêcher, et pour pouvoir nous tendre aujourd'hui intacte la parole de Dieu. Et c'est vrai, voici ceux qui, au milieu des moqueries même des croyants, ont voulu préserver l'obéissance à la parole jusque dans les plus commandements et plus petits commandements. Et nous sommes redevables à ces hommes qui ont été en péril sur les mers, en péril au milieu des tempêtes, en péril dans leur voyage, en péril à cause des brigands, en péril parmi les faux frères, donc à ces nombreux missionnaires, à ces pionniers évangélistes. Et nous sommes redevables, oui, nous sommes redevables à ceux qui ont tenu bon, à tous ceux qui ont été tués pour leur foi. Et là encore, voyez-vous, vous n'avez pas besoin d'aller beaucoup plus loin que le Mont-Aimé, un peu plus loin, mais dans une autre direction. Vous allez au sud de Saint-Dizier, vous arrivez à Vassy, et là, vous avez eu le massacre de Vassy, donc des croyants qui s'étaient rassemblés pour leur foi, pour prier leur Seigneur, et qui ont été attaqués par les troupes du duc de Guise, sans aucune raison valable, sinon celle de leur foi, et plusieurs dizaines d'entre eux ont été tués. Ça a été malheureusement le début des guerres de religion, mais ça a été comme cela. On voit des gens paisibles, qui rendaient paisiblement un culte, qui ne demandaient rien d'autre, et voilà, et bien, c'est au prix de leur souffrance que nous avons aujourd'hui ce Saint-Livre, et que nous avons aussi cette liberté d'annoncer la parole de Dieu. Oui, c'est vrai, c'est au prix de leur peine, de leurs travaux, que nous avons tous ces avantages de connaissances et d'expériences, parce qu'il a fallu trouver ou retrouver des choses qui avaient été perdues justement dans les ténèbres du Moyen-Âge ou très estompées. Par exemple, la conception de l'Église, comme nous l'avons aujourd'hui, ou bien le baptême du Saint-Esprit, ou bien les dons spirituels, ou la guérison divine par imposition des mains, ou les missions, telles que, oui, tout ça, ce sont des choses qu'il a fallu retrouver. Et c'est pour ça qu'il faut que nous agissions de la même façon que ceux qui ont été ainsi fidèles, pour pouvoir garder et préserver soigneusement les Écritures, et pour glorifier et servir Dieu avec le même zèle. Amen. Nous sommes redevables au passé, c'est une réalité. Et puis, non seulement cela, mais il est tout aussi certain que nous sommes redevables au présent. Partout où nous allons, nous pouvons trouver des preuves nouvelles, même pour l'observateur commun, que nous vivons à une période, une époque exceptionnelle. Vous me direz que chacun a trouvé son époque exceptionnelle, et c'est vrai que chaque époque est exceptionnelle par certains caractères. Mais nous vivons aujourd'hui dans un temps qui est crucial. Nous avons autour de nous des occasions de faire le bien, comme dans beaucoup d'époques, il n'y en a pas eu. L'homme a aussi, malheureusement, des capacités de faire le mal, comme il n'en a jamais eu jusqu'à présent aussi. Ça aussi, c'est vrai. Et l'idolâtrie, l'esprit de l'Antichrist, la fausse religion, le mélange entre vérité et erreur se répandent maintenant partout, comme ils ne se sont jamais répandus. Regardez autour de vous et considérez votre devoir. C'est-à-dire que le travail n'est pas encore achevé, le temps de se croiser les bras n'est pas encore venu, nos épées, l'épée de la parole de Dieu, ne doivent pas encore retourner au fourreau parce que l'ennemi n'est pas encore vaincu. Nous avons chacun dans cette affaire un travail à accomplir plus grand encore que ceux de nos ancêtres dans la foi. Et les ennemis de la vérité sont plus nombreux aujourd'hui et plus subtils que jamais, et les besoins de l'Église sont plus grands que dans toutes les époques précédentes. Et je rappelle ce que j'ai déjà dit, mais qui mérite quand même d'être rappelé, c'est qu'il y a plus de chrétiens qui sont morts martyrs pour leur foi pendant le seul XXe siècle que pendant les 19 siècles ensemble, réunis précédents ensemble. Donc ça nous montre vraiment la période dans laquelle nous sommes. Nous sommes débiteurs du temps que nous vivons. Et que nous puissions donc montrer des preuves que nous n'avons pas laissé s'envoler ce temps par négligence et par insouciance. Amen. Et puis nous sommes, frères et sœurs, aussi redevables au futur. Nous sommes redevables au futur. Quelle terrible conséquence pour l'avenir. Si nous ne sommes pas fidèles et veillants pour la vérité maintenant. Si nous laissons maintenant perdre la bonne doctrine, quelle misère, quelle tristesse pour les générations futures. Si nous ne leur transmettons pas un témoignage de vie chrétienne fidèle, si nous transmettons malheureusement un témoignage de vie chrétienne tiède, d'assemblée mêlée de péché et de mondanité, quelle misère et quelle tristesse va être la conséquence pour eux. Et c'est pour cela qu'il faut que les combattants pour la vérité tiennent ferme. C'est important. Semez bien. Pour que d'autres puissent récolter. Peut-être que ce que vous allez semer, vous ne pourrez pas le récolter vous-même. Mais semez bien pour que ceux qui vont récolter plus tard puissent avoir une bonne moisson. Vous êtes des fontaines pour ceux qui viennent après, qui viennent ensuite. Prenez donc garde que vos eaux soient pures. Nous sommes redevables au futur. Amen. Et puis nous sommes aussi débiteurs des autres, ça aussi c'est quelque chose. Nous sommes certainement débiteurs des grands, des puissants de ce monde, mais comme ils s'attribuent à eux-mêmes suffisamment d'honneur et de gloire pour ce qu'ils font, on ne va pas trop s'étendre sur leur cas, nous n'étendons pas non plus sur d'autres classes de la société auxquelles nous pouvons être redevables, sauf une, la classe des pauvres. La classe des pauvres, mes frères et sœurs, nous sommes redevables aux pauvres, c'est important. L'amour pour les pauvres, c'est une dette. Dieu nous recommande de bien nous souvenir des pauvres. Et leur pauvreté est un appel à notre générosité. Nous n'avons pas la liberté de donner ou de refuser. Mais dans le cas d'un pauvre qui est croyant, notre dette est encore plus criante et nous ne devons pas la négliger. Combien nous leur devons ? Ceux qui servent leur Église, mais sans être honorés ni récompensés. Mais le Seigneur les récompense et il les récompensera. Amen. Ceux qui accomplissent parfois des choses difficiles, mais cachées, et font ça pour le Seigneur, et qui sont trop souvent négligés. Et quelle bénédiction les prières des pauvres peuvent amener sur nous. Vous savez, certains hommes sont comme des citernes qui retiennent la pluie divine. Mais vous en avez d'autres qui sont comme Élie, et ils font tomber cette pluie du ciel. Et beaucoup d'entre eux se trouvent justement parmi ces pauvres qui crient à lui. Donc, frères, nous sommes redevables. Ce que j'ai ne m'appartient pas. Ce que j'ai appartient à Dieu. Et si c'est à Dieu, c'est à Christ. Et si c'est à Christ, c'est à ses enfants. Et les enfants de Christ sont souvent ceux qui sont dans la pauvreté. Prenons donc garde à eux, à ceux auxquels nous sommes ainsi redevables. Amen. Et puis, par-dessus tout, nous sommes redevables au Dieu qui a fait alliance avec nous. Parce que je ne dois rien au passé, ni au présent, ni au futur, ni aux riches, ni aux pauvres, en comparaison de ce que je dois à Dieu. Hein, donc voilà, je lui suis principalement redevable parce que je dois autant à Dieu, autant au Seigneur. Il est vrai que nous ne sommes plus redevables à la justice de Dieu, puisque Christ a payé jusqu'au dernier centime notre dette à cet égard. Je dois donc, de ce point de vue-là, tout à Christ. Hein, donc c'est lui seul qui est capable de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Nous sommes débiteurs à la souveraineté divine. Parce que finalement, en réalité, c'est quand même Dieu qui fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. C'est quand même cela. Hein? Et Dieu aurait pu nous détruire, s'il avait voulu. Et Dieu aurait pu nous mettre parmi ceux qui sont perdus. Et nous n'aurions aucun moyen d'être délivrés de la perdition. Et combien nous devons à sa souveraineté, à son support, et à sa patience, et à sa compassion. Et combien nous sommes redevables à son amour désintéressé, donc lui qui a en quelque sorte arraché son propre fils de son sein pour qu'il vienne mourir pour moi, pour qu'il vienne mourir pour toi, pour la croix. Est-ce que nous avons été touchés par cela ? Vous savez, dans les années 30, un jour aux États-Unis, il y a un employé de chemin de fer qui s'appelait John Griffin et qui s'occupait du fonctionnement d'un pont basculant sur le Mississippi. Il est arrivé à son travail accompagné de son plus jeune fils et après avoir relevé le pont, hein, parce que c'était un pont, il faut que les bateaux puissent circuler en dessous, donc il était en train de prendre son déjeuner lorsqu'il a entendu le sifflet du Memphis Express dans le lointain. Donc ça veut dire que le train arrivait, il fallait rabaisser le pont pour qu'il puisse passer. Hein. Il s'est précipité sur la manette qui contrôlait les engrenages du mécanisme quand soudain son sang s'est glacé dans ses veines. Il a vu que son enfant venait de glisser dans le boîtier aux engrenages et qu'une de ses jambes était prise par les engrenages. Et il a cherché désespérément un moyen pour libérer l'enfant, mais en vain, il n'avait plus assez de temps. Son fils était prisonnier de la machine et le train arrivait avec 400 passagers à bord. Hein, donc, Griffin savait ce qu'il devait faire. Alors, il a enclenché le mécanisme qui abaissait le pont et qui s'est mis en place juste avant l'arrivée du train. Évidemment, ça a été la mort de son enfant. Alors, levant la tête, les yeux embués de larmes, il a contemplé les fenêtres donc, de ces wagons qui défilaient devant lui. Et il a vu des hommes d'affaires en train de lire leur journal, des dames bien habillées qui étaient en train de boire une tasse de café, des enfants qui étaient en train de déguster des friandises, et personne n'a jeté un coup d'œil vers l'extérieur, personne n'a remarqué la petite salle de contrôle des machines et ses grands engrenages, et le cœur déchiré, Griffith n'a pas pu s'empêcher de crier « Pour votre sécurité, j'ai sacrifié mon propre fils, cela ne compte-t-il pas pour vous ?» Mais il n'y avait personne pour entendre les paroles de ce père accablé de douleur. Voilà. Et lorsque Dieu a sacrifié son fils, la question qu'il pose, mais est-ce que ce n'est rien pour vous qui êtes en train de passer votre chemin ? Ce que j'ai fait, la façon dont Christ a été sacrifié, hein, d'une manière encore bien plus terrible que ce terrible accident. Hein, donc, et ne devrions-nous pas répondre par cette autre question ? Que ferais-je donc de Jésus qui est appelé Christ ? Et ne devrions-nous pas réaliser combien nous sommes redevables à Dieu, redevables au Seigneur, et combien il est donc légitime, il est donc normal que nous lui consacrions réellement et concrètement tout notre cœur et toute notre vie. Amen. Oui, c'est vrai, c'est cela que nous devrions faire, c'est cela que nous devrions faire chacune et chacun d'entre nous. C'est ça la réalité des choses. Souvenez-vous combien nous sommes redevables aussi à cette grâce qui pardonne après ces nombreux affronts que nous avons eus envers lui. Malgré tout, il a encore usé de cet immense amour. Même dans la nature, nous avons des illustrations, des démonstrations très touchantes de cela. Le Sadhu Sundar Singh racontait qu'au cours d'une de ses tournées aux Indes, il est arrivé au pied de l'Himalaya et la jungle était en feu à cet endroit. Et un grand nombre de personnes luttaient contre ce fléau dévastateur. Et parmi ces gens, il a vu quelques hommes qui observaient un arbre dont les branches commençaient à brûler. Et puis il leur a demandé, mais qu'est-ce que vous regardez ? Alors on lui a montré des oisillons dans leur nid, des petits oiseaux qui étaient dans leur nid. Et au-dessus d'eux, il y avait la femelle qui voltigeait ça et là, dans une grande détresse. Et les hommes auraient bien voulu les sauver, mais la violence des flammes les empêchait de s'approcher de l'arbre. Alors le sadhu s'attendait à voir la mère s'envoler d'un moment à l'autre, mais, émouvante réalité de l'amour maternel, elle a étendu ses ailes sur ses petits, et quelques instants plus tard, elle était réduite en cendres avec eux. Et ça, c'est une saisissante illustration de l'amour de Dieu manifesté dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ce sont des indications pour nous parler de l'amour de Dieu si grand qu'il a envoyé son Fils. Et d'ailleurs, Sadhu Sundar Singh s'est saisi de cette image pour annoncer cet évangile d'amour à ses auditeurs qu'il avait à ce moment et à cet endroit. Vous connaissez peut-être l'histoire aussi de cette jeune fille de la campagne qui était allée travailler en ville, voilà. Hein, sa mère, veuve, avait essayé en vain de la retenir auprès d'elle, parce qu'elle ne pouvait pas se faire à l'idée que sa fille serait seule au milieu d'étrangers, entourée de toutes sortes de tentations, qu'elle n'aurait personne pour la conseiller, personne à qui dire ses peines. Et malgré les supplications de sa maman, voici que Marie donc avait quitté la demeure de son enfance et de sa jeunesse, et pendant longtemps, on n'a eu aucune nouvelle de sa part. Mais finalement, il y a une lettre qui est arrivée un jour depuis une ville lointaine, et quelqu'un racontait à la veuve angoissée ce que beaucoup savaient déjà au village, c'est-à-dire que sa fille avait oublié les enseignements de sa mère, qu'elle avait tourné le dos au Dieu de sa mère, elle avait abandonné les sentiers de la vertu, de la pureté, pour se livrer à une vie de misère, une vie de péché et une vie de honte. Et le cœur brisé, cette maman qui n'avait jamais cessé de prier pour son enfant a décidé de chercher et de ramener sa fille prodigue. Elle s'est rendue à la ville. Mais malgré toutes ses démarches, elle n'a pas réussi à découvrir Marie. Et au bout de quelques jours, elle allait retourner donc dans son village quand une idée lui a traversé l'esprit. Elle s'est dit, si je me faisais photographier, et puis que j'affiche mon portrait dans tous les lieux où elle pourrait se rendre, tous les lieux mauvais où elle pourrait se rendre, peut-être pourrais-je l'atteindre de cette façon. Et donc elle a fait ainsi, et les tenanciers de ces établissements, qui étaient étonnés de sa requête, lui ont permis quand même de réaliser son projet, ce qui fait que quelques temps après, sa fille est entrée effectivement dans un bar. Elle était frappée par cette photographie, elle dit « mais on dirait ma mère ». Et puis elle s'est approchée, elle dit « mais c'est bien elle, c'est maman ». Elle a reconnu aussi l'écriture en dessous du portrait. « Marie, je t'aime encore ». Ah ça, elle ne s'y attendait pas. Hein. Des reproches, oui, mais elle ne s'attendait à rien d'autre. Hein. Ah, quoi, maman est venue me chercher, elle est venue me chercher ici, elle est prête à me recevoir à la maison, telle que je suis. Et ces mots la poursuivaient. Marie, je t'aime encore. Et ils évoquaient ses années d'enfance, son innocence, la maison, et surtout l'amour, les conseils, les prières de sa mère. Et elle se souvint de ce qu'elle était autrefois, elle réfléchit à ce qu'elle est devenue à ce moment-là, et elle s'effondre, elle n'y tient plus. Elle entrevoit sa folie, elle prend la résolution d'abandonner ses camarades de débauche et de retourner auprès de sa mère. Et à la maison, tous les jours, la maman met le couvert pour elle. Nuit et jour, elle attend son enfant. Et une nuit, la porte s'entr'ouvre et la fille retrouvée se faufile à l'intérieur. La lampe brûle encore, la table est mise et sur un papier, il y a ces mots « Marie, je suis allée me coucher ». Bon appétit et bonne nuit. Vous imaginez ce qui s'est passé le lendemain. Vous pouvez imaginer, hein, quelle image de l'amour de Dieu qui est venu chercher, nous chercher chacun, le pécheur, la pécheresse coupable, que nous étions tous sans exception, que nous sommes les uns les autres et qui nous a pris tels que nous étions, qui nous a accueillis, qui nous accueille aujourd'hui encore tels que nous sommes pour nous pardonner, pour nous relever, pour nous guérir et pour nous régénérer. Béni soit son nom. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous sommes redevables. Et considérez aussi ce que vous devez à sa puissance. À sa puissance, comme il vous a délivré de maladies, comme il vous a préservé, il a préservé votre vie spirituelle, comme il vous a gardé de la chute, et comment bien que 1000 ennemis aient pu vous tendre des embuscades sur le chemin, vous avez cependant pu continuer votre route jusqu'à présent. Béni soit son nom. Amen. Amen. Considérez ce que vous devez, moi aussi, à son immuabilité, c'est-à-dire le fait qu'il ne change pas. Sa parole ne change pas, elle est toujours la même. Sa volonté ne change pas. Ses promesses éternelles demeurent fermes. Il est parfait, pourquoi changerait-il ? Il ne change pas et c'est pour ça que jusqu'à présent, nous avons été soutenus. Et c'est pour ça que nous pouvons avoir dans notre cœur des assurances et que nous pouvons être bénéficiaires pleinement de sa paix et de sa sécurité. Considérons que nous sommes en dette autant que possible à l'égard de chacun des attributs de notre Dieu. Nous devons toutes choses à Dieu, ce que nous sommes et ce que nous avons. C'est ça la réalité. En sommes-nous assez conscients ? Voici l'histoire de ces Tolstoï qui a donné cela, qui a donné ce récit. Et je vous le lis parce que c'est du Tolstoï, traduit en français évidemment. Mais un jeune homme se plaignit un jour de Dieu en ces termes. « Le bon Dieu envoie aux autres des richesses, mais à moi il ne m'a rien donné. Comment débuter dans la vie avec rien ?» Un vieillard qui entendit sa plainte lui dit « Es-tu si pauvre que tu le crois ? Dieu ne t'a-t-il pas donné jeunesse et santé ?» Je ne dis pas non, et je puis être fier de ma force et de ma jeunesse. Le vieillard, lui prenant alors la main droite, lui dit « Voudrais-tu te la laisser couper pour 1000 roubles ?»« Certes pas !» Et la gauche « Pas davantage !»« Et consentirais-tu pour 10 000 roubles à devenir aveugle ?»« Que Dieu m'en préserve, je ne donnerai pas l'un de mes yeux pour une fortune !»« De quoi te plains-tu donc ?» dit alors le vieillard. « Ne vois-tu pas que Dieu t'a donné une immense fortune ? Va et sois désormais reconnaissant !» Va et sois désormais reconnaissant. Ça, c'est la réalité, mes amis. Ça, c'est la réalité, mes frères et sœurs. Hein ? Le Seigneur a fait une œuvre pour laquelle nous devons être reconnaissants. Encore une petite anecdote. Dans une vente aux enchères, la foule se pressait pour acheter à bon compte divers ustensiles. Et en dernier lieu, le crieur a produit avec un sourire un vieux violon tout couvert de poussière. Les cordes disjointes, l'aspect vraiment minable. « Pour qu'il crin-crin » dit-il. Il a commencé à 20 francs, c'était encore les francs à l'époque. « C'est pas cher !» Ah, une voix qui dit « Moi, j'en donne bien 25 !» Un autre « Moi, 30 !» Ça servira toujours à amuser mon gosse !» Et puis, il y eut un silence. Les acquéreurs étaient rares pour le vieil instrument méprisé. Et quand soudain, du fond de la salle, voilà que se lève un vieillard, pauvrement vêtu, qui traverse la foule, qui prend l'instrument posé sur la table et d'une main d'expert en réajuste les cordes, les met au diapason parfait et puis se saisit du vieil archet usé et tire une exquise mélodie. La plus exquise mélodie qu'on ait jamais entendue avec cet instrument, semblable au chant des rossignols. Et dès qu'il a fini, il pose l'instrument là et puis il retourne s'asseoir. Et là, le vendeur a repris la vente avec un ton tout différent cette fois. « Combien pour le violon ? 1000 francs ? Oh. Moi, 1500 francs ! Moi, 2000 ! Moi, 5000 !» Et d'autres de renchérir encore. Voilà, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce bibelot de rebut ait acquis soudain une telle valeur ? Qu'est-ce qui s'est produit ? Qu'est-ce qui a accompli une telle métamorphose ? Eh bien, c'est tout simplement que la main du maître s'est posée sur lui. C'est ça qui s'est passé. Et que de vies humaines sont semblables à cet instrument méprisé, vous savez, ruiné par le péché, vendu à Satan pour le prix minime que le monde peut offrir, vous savez, un peu d'alcool, un peu de drogue, une cigarette, une nuit de plaisir, et puis la couronne bientôt passée, bientôt flétrie des succès sportifs ou intellectuels. Voilà tout ce que le prince de ce monde peut donner en échange de cette vie éphémère ici-bas. Mais une fois entre les mains percées du maître qu'il a racheté au prix de son sang, eh bien voici une valeur infinie pour cette vie dès ici-bas, dès maintenant, lorsqu'elle va commencer à témoigner de ce que le Seigneur a fait, lorsqu'elle va être un moyen de bénédiction pour d'autres autour d'elle. Quelle grande valeur, quel immense prix elle va acquérir ainsi, et sous les doigts du souverain chef d'orchestre de l'univers, je dirais l'âme la plus vile, la plus amorphe, la plus insensible de toutes, va pouvoir produire des sons insoupçonnés, des harmonies merveilleuses, des paroles de grâce et de puissance, et des paroles aussi à la gloire de Dieu. Et un jour, eh bien, cette personne, eh bien, elle ira dans le ciel, elle sera dans le cœur céleste, elle pourra chanter ce cantique nouveau en l'honneur de celui dont la main percée s'est posée un jour sur elle. Amen. Alléluia. Chantez à l'Éternel, car il a fait des merveilles. veille. Je te louerai, ô Éternel, car voici l'Éternel est ma force et mon cantique, il est devenu le Dieu de mon salut. Ça, c'est Ésaïe chapitre 12. Amen. Amen. Donc, nous sommes redevables. Nous sommes redevables spécialement, débiteurs de Dieu, à cause de notre relation avec lui, parce que nous sommes ses fils et ses filles. Si nous sommes ses fils et ses filles, n'y a-t-il pas une dette qu'un fils ou une fille doit à son père, et que même une vie d'obéissance ne va pas suffire à payer? Vous savez, je sais que je dois plus que je ne pourrai jamais payer à mes parents. Mes parents qui se sont occupés de moi, qui m'ont serré contre leur cœur, qui m'ont pris sur leurs genoux, qui m'ont suivi tout au long de mon enfance, tout au long de ma jeunesse. Maintenant, ils ne sont plus là, ils sont auprès du Seigneur. Mais jamais de mon vivant et de leur vivant, je n'aurais pu leur payer, leur rendre ce que je leur dois. C'est une évidence. Hein. Et quant à ceux qui m'ont enseigné la parole de Dieu, ceux qui m'ont annoncé l'évangile, ceux qui m'ont conduit dans la voie de la vérité, mes parents spirituels, je leur dois tant que je n'ose pas parler de la grandeur de cette dette-là. N'est-il pas vrai? C'est une réalité. Hein. Or, si Dieu est un père, où est l'honneur qui lui est dû? Et si nous sommes ses enfants, ne sommes-nous pas tenus, par cela même, de l'aimer, de le servir et de lui obéir? Et le véritable enfant de Dieu, enfant du Père Céleste, va se glorifier d'une telle relation et va obéir avec déférence, avec respect, avec soin, avec amour et en détail à tous les commandements de son Père Céleste. Amen. Il va avoir à cœur de le faire. Souvenons-nous que si nous sommes aussi frères de Christ, il y a une dette dans la fraternité. Déjà, le frère doit à son frère, simplement parce qu'il est son frère, il lui doit jamais plus que, je dirais, que tout ce qu'il pourra jamais lui payer. Hein, la réalité, c'est ça. Alors, certains estiment que c'est peu de choses, peut-être. Ils disent qu'il ne faut pas aller dans la maison de son frère au jour de l'adversité. Il vaut mieux aller dans la maison des inconnus. Mais normalement, ce n'est pas comme ça. Il ne devrait pas en être ainsi. La fraternité a des liens de dette. Et je dois à mon frère ce que je ne pourrai jamais lui payer. Et à Christ d'autant plus. Parce que Christ, lui, étant mon frère, mais il a donné sa vie pour moi. Hein, et combien l'a-t-il donné pour moi? Donc je lui dois vraiment. Et si vous êtes frère de Christ, vous lui devez votre amour. Et si vous êtes frères et sœurs en Christ, combien il vous faut aimer aussi vos frères et sœurs, jusqu'à leur laver les pieds, combien il nous faut ressentir cette grande dette solennelle que nous devons à Dieu et que nous devons aux frères et sœurs. Amen. Amen. Voilà, et maintenant nous arrivons à notre deuxième point. Que devons-nous tirer de ce fait que nous sommes débiteurs? Qu'est-ce que nous devons en tirer comme conséquence? Il y a deux grandes choses qu'on peut tirer. Déjà, en premier, nous devons en tirer une leçon d'humilité. Quelqu'un qui a des dettes, ce n'est pas quelqu'un qui peut être orgueilleux pour ça. Hein, on ne peut pas être orgueilleux d'avoir des dettes. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de reconnaître humblement notre obligation infinie. Et même les bonnes œuvres que nous pouvons faire, ce sont encore des occasions de dettes supplémentaires. Parce que ces bonnes œuvres, c'est Dieu qui les a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il les a préparées comme des moyens de bénédiction. Hein. Et donc voilà quelqu'un qui se sent très grand parce qu'il a eu l'occasion de faire un petit service dans l'œuvre de Dieu. Hein, ben donc, et il en paraît étonnamment fier. Est-ce qu'il a fait plus que ce qu'il aurait dû faire? Ben non, il était un débiteur. Qui est-ce qui s'enorgueillirait d'avoir payé une petite partie de sa dette alors qu'en fait, il doit beaucoup plus que tout ce qu'il possède? Y a-t-il une raison de s'enorgueillir quand on n'a payé qu'un centième de sa dette? Hein? Donc évidemment, ce n'est pas le cas. Et combien il est curieux de voir que certains hommes sont fiers d'être de plus grands débiteurs que d'autres. Hein? Un homme a 10 talents. Le Seigneur lui a donné 10 talents. Et comme il est fier, il regarde de haut celui qui n'a qu'un talent. Hein, et il lui dit, ben écoute, tu es un pauvre malheureux, tu es un pauvre frère, tu n'as qu'un talent. Mais alors toi, tu dois 10 talents, et ton frère, il n'en doit qu'un. Alors, pourquoi est-ce que tu serais fier de devoir plus qu'il ne doit? Parce qu'au bout du compte, c'est quand même ça que ça veut dire. Hein, c'est quand même ça la réalité. Et ce serait un orgueil insensé. Si deux hommes emprisonnés pour dette, l'un se vantait, et quand l'autre lui dit « j'ai une dette de 10 000 euros », l'autre répondit « moi je suis un homme plus considérable que toi, j'ai une dette de 100 000 euros hein ». On s'aperçoit que ce n'est pas logique. Si vous aviez un homme qui parcourait avec fixé sur sa poitrine, non pas des décorations, mais ses reconnaissances de dettes, et proclamait avec orgueil qu'il avait des dettes, vous diriez « cet homme est fou ». Hein, cet homme a un vrai problème. Et de la même façon, si un homme marche sur cette terre et dresse fièrement la tête à cause de ce que Dieu lui a donné, lui a confié, et puis il dit, ben moi je ne peux pas, pas trop me mélanger avec les ignorants, etc. Je ne peux pas m'occuper des pauvres parce que je suis tellement grand, je suis tellement puissant. Ah, vous pouvez dire encore là aussi, avec raison, emmener cette pauvre créature à cause de son orgueil et de sa folie, enfermée là, et qu'il apprenne que tout ce qu'il possède, c'est une dette, c'est sa dette, et qu'il n'a aucune raison de s'enorgueillir. C'est arrivé à Nebuchadnezzar, ça, un peu. Quand vous lisez dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 4, lisez ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar. Il est là, sur le balcon de son palais, et il s'enorgueillit. « Ah, n'est-ce pas là, Babylone la grande, grande, que j'ai créée par ma puissance, etc. » Et puis voilà qu'il s'enorgueillit. S'enorgueillit de tout ce que Dieu lui a donné, de ce que Dieu lui a permis de faire. Et puis voilà qu'une voix retentit du ciel, « Apprends, Nebuchadnezzar. » Que voilà ce qui va t'arriver. Hein. Tu vas te retrouver à manger de l'herbe comme un bœuf. Pendant 7 ans, tu vas être comme ça. Pour que tu apprennes que ce n'est pas à toi que tout ça appartient, mais que c'est à Dieu que la gloire doit être rendue. Et ce n'est pas à un homme. Et au bout de 7 ans, après qu'il ait été, voilà, comme un bœuf, hein, au bout de 7 ans, là, la raison lui est revenue. Et la raison l'a amené à quoi ? Elle l'a ramené à glorifier Dieu et à s'humilier. Et il s'est converti, cet homme-là. Il a fallu qu'il passe par là, hein, voyez-vous. Mais c'est une image, et c'est une image aussi qui est très importante pour nous. Donc déjà, ça doit nous amener dans une position d'humilité cohérente, logique, réfléchie et continue. Et puis, nous devons aussi en tirer de ce fait, de cette redevabilité, nous devons aussi tirer une leçon de zèle. Hein. Puisque nous ne pouvons pas tout payer, nous devons au moins déjà reconnaître la dette. Et ça fait partie de reconnaître une dette que de jour après jour, chercher aussi à reconnaître cette dette en vivant pour lui. Et si nous ne pouvons pas payer le principal, donnons cependant un petit intérêt, je dirais, sur les talents qu'il nous a confiés et sur ces grâces merveilleuses qu'il a répandues sur nous. Hein, donc, et c'est pourquoi prenons avec nous cette pensée partout où nous allons, je suis un débiteur, je dois servir mon Dieu. Ce n'est pas laissé à mon libre choix de le faire, mais je suis un débiteur et je dois le servir. Et ça, c'est à la portée de chacun d'entre nous. C'est à la portée des plus grands criminels de comprendre ça. Hein, c'est le témoignage de Reinhold, qui était l'homme le plus dangereux de la prison de Dartmoor, dans le Devonshire, en Angleterre. Il mettait sa gloire à être le plus invivable possible. Et les innombrables bagarres dont il était à l'origine, les sévices qu'il avait infligés à d'autres prisonniers, avaient conduit l'administration pénitentiaire à le placer à l'isolement. Et l'aumônier qui venait visiter la prison a voulu tout de même le rencontrer. Alors il a hésité un peu, évidemment, quand arrivé devant sa cellule, il a vu son air renfrogné. Malgré tout, prenant son courage à deux mains, il est entré et il a adressé à Reinhold une salutation sous forme de conseil. Et il lui a dit « Ce dont tu aurais besoin, c'est d'être changé de l'intérieur. » Voilà. Et il s'attendait à recevoir quelques paroles de moquerie ou de mépris. Mais quelle ne fut pas sa surprise d'entendre la réponse de Reinhold. Oui, je pense que vous avez peut-être raison. C'est vrai. Alors, le prédicateur de l'Évangile s'est enhardi, il est allé un petit peu plus loin, il lui a dit, est-ce que tu sais que c'est possible ? Et il lui a expliqué que des multitudes avaient déjà fait cette expérience en prenant au sérieux l'enseignement des Évangiles. Et il a pris sa propre Bible et avant de lui confier, il a marqué là quelques versets de l'Évangile de Jean. Il lui a conseillé de les lire et de réfléchir à leur sens. Et 3 jours plus tard, lorsqu'il revint pour le voir, il remarqua tout de suite un changement. Reinhold avait quitté son air maussade et souriait. Et Dieu a dit, ben, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, c'est le livre, dit Reinhold. C'est le livre. Et d'expliquer qu'il avait lu, relu les passages soulignés, qu'il en avait vu d'autres, et que petit à petit, la lumière s'était faite dans son cœur, sur sa vie, sur l'amour de Dieu, sur le merveilleux message de pardon et de paix qui est apporté par Jésus-Christ. Et il avait décidé de lui confier sa vie. Il avait fait cela dans sa cellule. Et bientôt, dans la prison, eh bien, tout le monde a remarqué le changement. Parce que partout où il était, l'ancien caïd apportait maintenant une note de lumière et de joie. Et lui-même est allé jusqu'à déclarer « Je suis heureux ». d'être condamné pour longtemps. La prison est pour moi l'endroit le plus heureux de la terre, là où je peux le mieux servir mon Seigneur. Il apprenait la joie du partage, d'être utile à ses compagnons. Et c'est vrai que l'Évangile, c'est vraiment la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Et c'est vrai. Et tout naturellement, voyez que cet homme a réalisé que la moindre des choses, c'était d'être au service du Seigneur, au service de son Seigneur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ? J'élèverai la coupe des délivrances. Amen, amen. Un autre témoignage pour montrer que ce qui peut se passer pour un fils de pasteur, hein, parce que le père d'Adoniram Judson était pasteur. Il ne cessait de prier et d'espérer que son fils suive ses pas, mais ce fils avait des idées très différentes. Hein. Considérait que le fait d'être pasteur, c'était une perte de temps et un gaspillage de talent. Alors il s'est déclaré athée. Athée convaincu, et il est devenu l'ami d'un certain Ernest Innes, qu'il rencontra à l'université de Providence. Et ce dernier, qui était lui aussi un athée farouche, et ça a consolidé la conviction de Judson qu'il n'y avait pas de Dieu. Et pendant des années, Judson a erré dans le pays, vivant, selon ses propres mots, une vie dissolue à l'extrême. C'était ses propres paroles concernant ce temps-là. Et un soir, il a fait halte dans une auberge de campagne où la seule chambre encore vacante était à côté de celle où un homme était en train de mourir. Alors, il a dit, je n'ai aucun problème à prendre cette chambre, a-t-il dit fièrement à l'aubergiste, je n'ai pas peur de la mort, je suis un athée convaincu. Voilà, c'est tout. Malgré tout, pendant la nuit, il a dû entendre les râles et les gémissements de souffrance de son voisin, puis quand même, il a pensé, mais je devrais aller l'aider, mais qu'est-ce que je pourrais lui dire ? Et au petit matin, cet homme mourut. Et avant de quitter l'auberge, Judson demanda au propriétaire, « Vous savez qui était cet homme ?»« Et c'est un homme à peu près de votre âge, » a répondu l'homme. Il diplômait de l'université de Providence, il s'appelait Ernest Innes. Voilà ce que lui a répondu l'aubergiste. Et Judson est rentré à la maison de son père avec les mots dans son esprit qui résonnaient tout au long du chemin, « Mort et perdu, mort et perdu, mort et perdu. » Et arrivé chez lui, il a abandonné sa vie entre les mains de Christ et plus tard, il est devenu missionnaire en Asie. Il est passé par de grandes persécutions. Il a participé à la traduction de la Bible en birman et des milliers de gens ont découvert Jésus-Christ grâce à lui. Et dans son journal quotidien, on peut lire les lignes suivantes. Permets-moi de travailler dans ces montagnes, dans ces espaces perdus. Permets-moi de me consacrer à dire comment il est mort, mon sauveur et mon roi, simplement pour sauver un monde destiné à l'enfer. C'est vrai. Alors voilà, c'est ça la grande chose. Est-ce que tu ne sens pas le Seigneur qui parle à ton cœur aujourd'hui ? Est-ce que tu ne sens pas le Seigneur qui te tire par la manche ou par le bras, quelque part, et qui t'appelle à venir à lui, et qui t'appelle à te tourner vers lui, et qui t'appelle aussi à le servir, parce que c'est la chose qui est légitime. Dire au Seigneur, Seigneur, me voici pour te servir, fais de moi ce que tu veux, fais de ma vie ce que tu veux. Amen. C'est cela que nous avons besoin d'entendre comme parole et comme message qui touche puissamment nos cœurs et qui touche puissamment nos âmes. C'est vrai. C'est vrai. Si nous croyons tout cela, eh bien, il nous sera plus facile aussi, quelque part, je dirais, de faire fonctionner les assemblées de la bonne façon. Si tous nous avons cela à cœur, hein, alors je vais voir peut-être tel frère et je lui dis, frère, il y aurait tel ou tel travail à faire pour Dieu, dans l'assemblée, dans l'église. Est-ce que vous voulez vous en occuper ? Eh bien, la réponse, ben, frère, vous savez combien j'aime les choses de Dieu, combien je fais tout ce que je peux, voilà, mais, il y a le mais. Le mais, ben, voilà, mais je travaille toute la semaine et je ne peux pas le faire. Voyez-vous, cet homme ne sait pas qu'il est un débiteur. Cet homme ne sait pas qu'il est un débiteur. Si je lui ai apporté une facture demain matin, hein, et puis, est-ce qu'il va me demander, vous voulez me mendier de l'argent ? Non, parce que s'il me dit ça, je dis, non. Tiens, c'est la facture des travaux qui ont été faits chez toi. Il faut que tu payes cette facture. Ah bon, d'accord, le montant est de combien ? Eh bien, voici l'argent. Il n'y a pas à discuter, parce qu'il est redevable, c'est une dette. Et c'est ça la façon de faire, c'est de sentir et de connaître qu'on est débiteur. Quand une chose doit être faite, de la faire. Et de dire ensuite, ne me remerciez pas pour cela, parce que ce n'est qu'une petite partie de ce que j'aurais dû faire. Je n'ai fait que contribuer à payer la dette que j'ai. C'est dans Luc, au chapitre 17, que le Seigneur dit, au verset 10, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. » Et quand l'occasion se présente de travailler pour le Seigneur, je ne sais pas, que ce soit par le jeûne, ou par les missions qu'on peut faire, auxquelles on peut participer, ou par l'évangélisation qu'on peut faire de maison en maison, ou par le nettoyage de la salle, ou par des travaux qu'on peut faire dans les salles, ou par le fait de transporter des personnes pour les amener en réunion avec sa voiture, que sais-je encore ? Eh bien, ne considérons pas que c'est un privilège spécial qu'on est en train de faire au Seigneur, ou à l'Assemblée, ou au pasteur, mais pensons chacun combien nous sommes débiteurs et combien c'est une chose normale. Amen. Amen. Voilà. Eh bien, en conclusion, eh bien, rappelons-nous que le Seigneur est en plus encore rempli de compassion et de miséricorde. Et que quand nous travaillons pour lui, bien que nous ne méritions rien, eh bien, il veut nous bénir encore. Alléluia. Et que lorsque nous faisons valoir ses talents, eh bien, il nous prépare encore en plus de merveilleuses récompenses. Il veut nous faire entrer dans sa joie, il veut mettre dans nos cœurs des chants d'allégresse. Alors soyons des serviteurs et servantes fidèles qui travaillent pour lui avec humilité et avec zèle. Que nous puissions tous être à l'œuvre, le bénissant en même temps pour toutes ses grâces et pour tout son amour. Amen. Amen. Te remercions, Seigneur, et nous te rendons grâce et gloire encore de pouvoir être là ce matin et de pouvoir encore nous saisir de ta bonne parole, de la serrer dans notre cœur et aussi de nous attacher à cette grande vérité de la redevabilité, Seigneur. Ce qui nous met dans la bonne position, une position d'humilité et une position de service avec zèle. Et merci parce que c'est cela aussi que tu bénis, c'est cela aussi que tu approuves et c'est cela aussi que tu accompagnes de beaucoup de grâces précieuses et excellentes. Merci parce que tu agis ainsi et merci parce que tu veux le faire dans nos vies à chacune et à chacun et ceci pour la plus grande gloire de ton beau nom. Merci Seigneur, sois loué, sois béni notre Dieu. Amen, amen, alléluia. Alléluia. Voilà, nous avons quelques annonces. Donc la reprise de l'école du mercredi, cette semaine, c'est à 14h ici, c'est pour les jeunes d'âge collège. Donc je vous rappelle, donc, ça veut dire déjà ceux qui vont entrer en 6e peuvent venir aussi. Et puis voilà, tous ceux qui sont de cette tranche-là. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, si vos enfants ne sont pas encore inscrits, eh bien faites-le s'il vous plaît auprès de Jean-Baptiste ou de moi. Donc c'est mercredi qui vient à 14h. Hein. La réunion de prière elle-même, ce sera mercredi soir désormais, à 20h15, nous retournons à l'horaire précédent. Il n'y a pas besoin de s'inscrire pour y participer. Pour l'instant, nous avons toujours la prédication et le témoignage en ligne vendredi soir à 20h15, c'est sur le site de l'église, ça. Et je vous rappelle que samedi qui vient, l'évangélisation dans les villages est annulée à cause de l'Assemblée générale annuelle de l'association cultuelle, donc qui doit se tenir ici. Samedi 19 à 14h30. Donc, la convocation est sur le tableau d'affichage au fond de la salle, là-bas. Et tous ceux qui sont baptisés ou membres de l'Église depuis un an, bien, vous êtes invités à participer à cette Assemblée générale. Et tous ceux qui ont l'Église à cœur, hein, qui désirent savoir ben, voilà, comment le bilan des temps passés, les leçons à en tirer, puis aussi ce qu'on peut anticiper pour l'avenir, eh bien, vous êtes bien sûr les bienvenus. Nous aurons aussi notre frère André Questel qui sera avec nous à l'occasion de Reims. Et puis voilà. Que Dieu vous soutienne et vous encourage. Amen. Alléluia.